Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. À travers cet évangile, on peut constater comment des personnes différentes portent des regards différents sur la même réalité. Voici Marie-Madeleine qui constate que la pierre est enlevée du tombeau et qui s'imagine dans sa tête qu'on a volé le corps du Seigneur Jésus. Voilà. Et elle va trouver les disciples en leur disant « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, nous ne savons pas où on l'a déposé. » Voilà, premier regard, c'est celui de Marie-Madeleine qui imagine une violation de sépulture, ce sont des choses qui arrivaient à l'époque, et qui va le transmettre. Deuxième regard, celui de Pierre qui voit au fond les linges posés à plat, la mentonnière qui avait entouré la tête de Jésus roulée à part à sa place, le tout bien rangé d'une certaine façon. Puis voilà, il voit cela, mais il ne sait pas quoi en penser exactement. Hier, dans l'évangile selon saint Luc, nous lisions une toute petite phrase que Luc avait écrite, effectivement, où il mentionnait cette perplexité de Pierre devant le tombeau vide. Le premier événement de la résurrection, c'est le tombeau vide, le constat du tombeau vide. C'est d'ailleurs la seule chose historique, entre guillemets, à proprement parler, la résurrection de Jésus étant d'un autre ordre, si vous voulez, de l'ordre de la foi, n'étant pas constatable de la même façon. Et puis le troisième regard, c'est celui de Jean, qui d'abord qui cède la première place à Pierre, Pierre qui est le responsable du groupe des douze établi par Jésus. Donc il arrive le premier, mais il attend, il laisse passer Pierre, puis ensuite il entre, et d'un seul coup, comme un flash au fond, il croit, il comprend d'une part que l'interprétation de Marie-Madeleine, à savoir la violation de sépulture, est fausse, sinon si on avait volé le corps, on aurait amené les linges avec, bien sûr. Si Jésus était toujours à l'état de cadavre au fond, on aurait emmené les linges, le corps enveloppé dans les linges, mais puisque les linges sont là, d'un seul coup, Jean sent la foi en la résurrection monter dans son cœur. Il vit et il crut. C'est ce qu'il écrit plus tard dans cet évangile, que la lumière concernant la résurrection de Jésus s'est faite en lui à ce moment-là, à travers un regard plus perçant sur la réalité. Voilà. Trois regards. Le premier regard qui est un regard qui, au fond, voit sans voir, parce que c'est un regard un peu idéologique, on pose une idée sur les faits. Le deuxième regard, c'est un regard où on ne comprend pas, perplexité. Et puis le troisième regard, c'est un regard qui va plus profond et qui, par la foi, cueille le cœur même de la réalité. La foi est un mode de connaissance qui n'est pas identique à celui de l'intelligence, qui va plus loin que l'intelligence et qui pénètre au cœur des réalités. En ce sens-là, on a pu entendre dans la seconde lecture un beau passage de la lettre aux Colossiens, Paul leur écrire que, voilà, rechercher les réalités d'en haut, c'est là qu'est le Christ. Pensez aux réalités d'en haut. En effet, vous êtes passé par la mort, votre vie reste cachée avec le Christ Jésus. Il voit la réalité en profondeur. Pourtant, on n'est pas mort puisqu'on est toujours là, etc. Mais lui, il voit que par le baptême et à cause de la résurrection du Christ, et parce que le Christ nous a tous saisis dans sa mort et sa résurrection, nous sommes déjà potentiellement ressuscité avec lui. Vous êtes passé par la mort, votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Non pas qu'on ait, comme on imagine aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de gloses à ce sujet, un corps éthérique, un corps astral, un millefeuille comme ça, et puis. Mais quelque part, virtuellement, parce que ce n'est pas préhensible. Concrètement, on ne peut l'appréhender que par la foi. Quelque part, déjà, on est ressuscité avec le Christ à cause de la puissance du baptême. C'est une réalité qui change vraiment notre approche de la mort. Plus nous avançons en âge, plus nous nous rapprochons du moment où nous devrons faire notre passage. Mais lorsque nous savons que déjà nous sommes ressuscités en Christ, nous ne pouvons marcher vers notre mort qu'en étant certains que ce sera un passage qui va nous mener dans la gloire, dans la lumière, dans la résurrection à venir. C'est la force du chrétien, profondément, pour marcher en ce monde avec une perspective, un sens, une boussole. Il n'est pas sans direction, comme beaucoup de gens, mais il a une vision. Voilà. L'importance d'avoir une vision. C'est cela, la foi, ça nous donne une vision et donc un ordre de marche pour avancer dans la vie de chaque jour. Alors cet évangile, donc, vous le voyez, il est bien concret finalement. Et les disciples n'avaient pas encore saisi que Jésus avait annoncé sa résurrection, qu'elle était quelque part prophétisée dans les Écritures de la Première Alliance, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et maintenant, voilà, la réalité est là, Jésus est ressuscité. Il va donner quelques apparitions, mais surtout, il est maintenant absent. Il y aura quelques apparitions, Pierre va avoir une apparition pour lui, toute personnelle, la Vierge Marie probablement, ce n'est pas dit dans les Écritures. Jésus apparaîtra une fois à une foule de 500 personnes. Il va apparaître évidemment aux 11. Même Saint Jean nous dit une fois aux 10 parce que Thomas n'était pas là, était peut-être parti faire les courses, on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, 8 jours plus tard, Jésus est revenu et cette fois-ci, le groupe des 11 était constitué. Et c'est là qu'il a dit à Thomas, qui ne voulait pas croire les 10 autres, « Voilà, mets ta main dans mon côté et regarde mes plaies. » Donc Jésus est apparu à des personnes qui sont devenues des témoins. On aurait bien voulu que la résurrection de Jésus soit tellement éclatante que tout le monde sur la terre entière puisse le constater. Ça, c'est la réalité de sa venue glorieuse à la fin des temps. L'Écriture dit que, comme un filet, elle s'abattra sur tous les habitants de la terre, comme un éclair qui part du levant pour aller à l'Occident. Elle sera visible par tous. Ça, c'est la réalité de la venue glorieuse. En revanche, la réalité de la résurrection, on l'a dans la lecture des Actes des Apôtres qu'on entendait au tout début. Pierre qui dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Voilà, les apôtres le disent bien, qu'ils sont les témoins privilégiés, les dépositaires, et qu'ils s'engagent à témoigner de la résurrection de Jésus. Si bien que nous sommes placés, nous, dans la même position que Thomas, à recevoir un témoignage qui nous vient de l'extérieur et à poser un acte de foi vis-à-vis de ce témoignage. Avec en plus, peut-être, pour certains d'entre nous, une expérience intérieure spirituelle qui les assure vraiment que Jésus est ressuscité parce qu'ils en ont fait comme une sorte de rencontre intérieure. Mais la foi se base sur des témoignages qui sont ceux des apôtres, la foi en la résurrection. C'est eux qui ont constaté le tombeau vide, ce sont eux qui ont eu l'apparition visuelle et concrète de Jésus ressuscité, et ce sont eux qui nous transmettent cette information au fond, et c'est à nous maintenant de pouvoir la transmettre aussi. L'importance pour des parents d'être témoins de la résurrection de Jésus auprès de leurs enfants. L'importance pour chacun de nous, dans la portion de monde que le Seigneur nous a donné à cultiver, d'être témoins de Jésus ressuscité, très simplement par notre présence, la façon dont nous posons nos actes, par quelques paroles quand nous y sommes provoqués, sans prosélytisme mais avec sérénité et assurance, témoigner que Jésus est ressuscité, que cela donne sens à ma vie, que c'est une lumière pour moi et que c'est pour toi aussi si tu le veux. Et ça, je crois, des gens autour de nous attendent cela de notre part. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous, nous sommes chrétiens pour partager, pour les autres, pour témoigner, pour être missionnaires. Le pape François appelle les baptisés des disciples missionnaires. Disciples missionnaires. Soyons tout au long de cette semaine où nous allons célébrer la Pâque, puisque la fête de Pâques dans l'Église catholique est célébrée pendant une semaine entière, ce qu'on appelle l'octave de Pâques. Eh bien, soyons les témoins du ressuscité de façon particulière cette semaine.